que ce qui est important, c'est de dépasser la question des puits pour voir les questions humaines. Hein. C'est-à-dire que dans un pays vraiment développé, même si on a des périodes de sécheresse, on peut surmonter assez relativement facilement ces problèmes. Or là, si l'Inde n'arrive pas à le faire, c'est la question du développement social, politique, économique du pays qui est mise en question. Et ça, évidemment, c'est très douloureux pour un pays qui se prétend devenir une grande puissance économique, ce qu'elle est déjà assez largement.
C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que c'est pas aussi lié à la façon de cultiver et aussi aux infrastructures, notamment d'irrigation, etc.
Il y a seulement à peu près la moitié de la surface cultivée qui est irriguée, et encore parfois c'est irrigué de façon très très précaire. Vous pouvez très bien avoir des canaux à bordure du champ, mais si les canaux sont sans eau, ça ne sert pas à grand-chose. De même, les puits, les forages pour récolter l'eau souterraine connaissent leurs limites parce qu'il y a beaucoup de forages qui désormais sont à sec avec des nappes qui ont été surutilisées. Donc vraiment, l'utilisation de l'irrigation connaît ses limites, je pense. Et puis, la construction de grands barrages est de plus en plus contestée pour des raisons sismiques, mais aussi des raisons écologiques, sociales, etc. Donc, il y a ces questions d'une certaine précarité de l'agriculture, des pratiques agricoles. Et puis, il y a l'environnement économique, je crois, qui est très important. C'est-à-dire que les agriculteurs doivent emprunter à des taux souvent très très élevés avant la mise en culture et en tout cas avant la récolte. Et si la récolte est très faible, en tout cas avec des prix dérisoires, eh bien là il y a d'énormes problèmes pour rembourser, hein, d'où les fameux suicides de paysans qui ont cours depuis des années, qui sont très médiatisés, témoignent bien d'une crise agraire très profonde.
Et quelles seraient les conséquences de cette sécheresse d'un point de vue économique ?
Je pense qu'il faut aller au-delà des chiffres de quintaux par hectare de production brute, parce que l'agriculteur peut très bien produire suffisamment, mais à des prix dérisoires ensuite quand il s'agit de vendre. Et donc là, il y a tout l'environnement économique qu'il faut discuter. L'Inde se libéralise, pas mal de prix désormais sont moins soutenus par l'État, avec des concurrences venues d'importations étrangères. Donc par exemple pour le coton, les agriculteurs ont beaucoup de mal à vendre à des prix assez importants. De même, les banques qui jusque-là avaient une obligation de s'installer à la campagne voient cette obligation levée au nom d'un certain libéralisme. Du coup, les agriculteurs ont moins à leur disposition des banques pour leur prêter à des taux convenables. Et c'est pour ça qu'ils se jettent dans les bras de ces usuriers, qui sont aussi les vendeurs d'engrais, qui sont aussi les vendeurs de pesticides, qui sont le beau-frère du maire, le cousin du député, etc. Et là, on a donc des structures sociales villageoises, souvent extrêmement dures, qui finalement créent de véritables drames humains.
Alors, le gouvernement a annoncé une aide de 700 millions d'euros en janvier pour les agriculteurs et justement pour ceux qui souffrent de la sécheresse en Inde. Est-ce que c'est véritablement une réponse à la sécheresse, étant donné son ampleur ?
C'est toujours ça. Après, il faut voir qui va arriver au niveau des paysans eux-mêmes, hein, parce que souvent ces aides sont versées par des intermédiaires multiples qui se servent et au final avec beaucoup de malversations. Les plus pauvres, qui sont aussi les plus faibles socialement, politiquement, sont parfois les dindons de la farce. Alors c'est sûr que c'est une solution, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Avec de bonnes pluies ou de mauvaises pluies, de toute façon, les campagnes agricoles indiennes sont extrêmement précaires. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs ont en moyenne un hectare de terre comme exploitation. Beaucoup n'ont rien du tout, c'est-à-dire qu'ils sont juste des ouvriers agricoles. Et en fait, le salut des campagnes indiennes ne viendra jamais seulement de l'agriculture. Ça viendra, il faut sortir une bonne partie de ces exploitants de l'agriculture afin d'augmenter la taille des exploitations, qu'on arrive à une taille suffisante pour que les agriculteurs puissent soutenir les chocs climatiques ou économiques. Et ça, c'est le problème de l'Inde, hein. Contrairement à pas mal de pays d'Asie du Sud-Est ou à la Chine, les ruraux indiens sont avant tout des agriculteurs. Et c'est la trop forte dépendance des campagnes et même de l'Inde envers l'agriculture qui est vraiment le problème. Donc comment sortir de l'agriculture tout en restant rural ? Comment effectuer cette diversification des activités rurales ? Ça, c'est une question à laquelle l'Inde n'a pas réussi encore à répondre positivement.
Mais vous pensez que c'est possible qu'à terme, l'Inde trouve sa solution justement en se diversifiant, en sortant de l'agriculture ? C'est possible ce modèle-là pour l'Inde ?
Oui, c'est possible. Disons, je pense déjà par exemple que l'alphabétisation a énormément progressé depuis 10-15 ans. Donc ça, c'est quand même un goulot d'étranglement qui va disparaître, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes, mais aussi de femmes rurales, vont pouvoir avoir un petit capital culturel qui va leur permettre de se lancer dans un petit business, etc. Ça n'ira pas très loin, mais ça peut être un élément de démarrage. Le développement général du pays est un facteur positif. La croissance, elle a l'air bien stable, autour de 7%. L'année prochaine, la mousson s'annonce bonne. Mais il reste le problème, c'est que l'Inde a battu ses succès depuis 20-30 ans sur des services à haute valeur ajoutée, avec une main-d'œuvre qualifiée. Et ça, ce sont des activités qui ne sont pas très gourmandes de main-d'œuvre et surtout peu qualifiées.
Mais alors, ça veut dire que ça sera un drame pour l'Inde en termes de commerce international si le pays sortait de l'agriculture, étant donné que c'est le premier exportateur de riz.
Est-ce que exporter tant, c'est un signe de bonne santé? Est-ce que l'Inde n'exporte pas beaucoup parce que justement, il y a beaucoup d'estomacs qui sont encore vides dans la population? Tout ça est assez compliqué, notamment à cause de ces questions de stocks nationaux. Il semble bien que le gouvernement veuille réduire les distributions à prix subventionné, ce qui ferait que les stocks, qui sont considérables, des dizaines de millions de tonnes, ne seraient plus donc utilisés pour nourrir à bas prix la population pauvre. Et du coup, il faudra bien en faire quelque chose, ce qui, à mon avis, pourrait augmenter considérablement les exportations, étant donné que le gouvernement connaît très bien des difficultés, étant donné qu'il sera obligé, je pense, d'acheter encore au Punjab, dans les zones où il y a de la surproduction, pour éviter des baisses de cours. Mais il se trouvera aux prises avec des stocks considérables, très coûteux à gérer, qu'il aura tendance, je pense, à brader sur le marché international. Donc, c'est deux choses différentes, mousson bonne ou mauvaise, et puis exportation. Sur le moyen terme, ce sont deux processus qui peuvent ne pas avoir vraiment de lien, en raison notamment de ces questions de stocks, de redistribution sur le marché intérieur, etc.